Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mauni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
En temps de crise, la radio capable du meilleur comme du pire, c'est le thème qui sera largement débattu au cours de ce grand dialogue. La radio au service de la concorde nationale, c'est le thème choisi ce 13 février pour célébrer la journée mondiale de la radio. Quelle place occupe-t-elle la radio de la désinformation? Les radios sont-elles source de désinformation? Quel rôle jouent les radios de la résolution des crises que traverse le Mali? La radio parvient-elle à asseoir le vivre ensemble? Comment faire pour que la radio soit plus constructive? Studio Tamani ouvre le débat avec nos invités, Fatoumata Koulibaly, dite FC, de l'Office de Radio-Télévision du Mali, ORTM, Mamoudou Bokoum, président de l'Union des Radios et Télévisions Libres du Mali, URTEL, au téléphone, Ousmane Abdoulaye, directeur de la radio Nata de Gao. À la présentation, je suis Mrana Kilomaïga, invité, auditeur, téléspectateur, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Studio Tamani, s'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Fatoumata Koulibaly, que représente pour vous la radio?
Je salue d'abord tous les auditeurs et je vous salue également de m'avoir invité ici. Merci, c'est très gentil parce que la radio me manquait. Et la radio, c'est la vie pour moi. Parce que moi, j'avais dit à l'époque, s'il n'y avait pas de radio, j'allais la créer. C'est la vie, puisqu'il y a tout dedans. La radio apporte, comme vous venez de le dire, la joie, le bonheur et le malheur si on ne sait pas le faire, si on ne sait pas gérer. Donc la radio, elle est tout pour moi.
Qu'est-ce qui vous a motivé à embrasser le métier de la radio?
Quand j'étais encore petite, ben, à l'époque, Mbaye Boubacar Diarra, qui était à l'ORTM, lui, leur maison se trouve... La famille de son papa se trouvait en face de chez mon père. Donc, il venait avec ma grande sœur qui était de même promotion que lui. Il venait me trouver en train de lire « Le rat de ville s'en va, le rat de campagne le suit ». Donc, il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Tu aimes la lecture ?» Je lui ai dit « J'aimerais devenir comme Kadiatou Kouma, feu Kadiatou Kouma. » Elle était animatrice à Radio Mali. J'ai dit « J'aimerais faire comme elle, parler aux autres. » Informer les autres.
C'était en quelle année?
Ah, ça, c'est à l'époque, j'étais en 7e ou 8e année. Hein. C'est vieux. Donc, quand je l'ai dit, ça, il m'a dit, il faut bien te battre, il faut continuer à lire, il faut apprendre beaucoup, comme ça, tu viendras à Radio Mali. C'est par surprise qu'il m'a vu là-bas un jour, quand j'ai commencé le stage. Voilà, c'est un hasard qui m'a amené là-bas.
Alors, par quel moyen vous parviendrez à accéder à l'information à l'époque?
Ben, à l'époque, ce n'était pas facile. Il fallait aller sur le terrain. Parce que moi, j'ai commencé d'abord par les programmes de Radio Mali. On sillonnait les villes, les quartiers de Bamako. Quand il y avait des journées de salubrité, le gouverneur venait devant nous, avec la présidente des femmes, des jeunes. C'était à l'époque de l'UNFM. Donc, on sillonnait, on cherchait les nouvelles. On les ramenait à la base, à l'ORTM, on les traitait et on les diffusait. C'était comme ça. C'était comme ça. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Vous êtes bien dedans. À l'époque, nous, on partait chercher. Aller chercher l'information à la source. C'était ça. Mmh. C'est pour cette raison. Bon, c'était rare d'avoir de fausses informations. Hein. Parce qu'on partait, on voyait, c'est la source. On voit, on entend. Les intéressés sont là. On vient avec. Donc ça, c'est comme le direct. Voilà, c'était comme ça qu'on faisait.
Et qu'est-ce que vous tirez comme expérience de la radio aujourd'hui?
Ah, moi, je tire beaucoup d'expérience hein, parce que tout à l'heure, dans les coulisses, je te l'ai dit. Et je suis en train de faire ma thèse de doctorat. Et c'est grâce à la radio surtout. Ce n'est pas cinéma, c'est média agriculture. Donc je viens de quitter Koutchala, milieu rural, 8 villages que j'ai sillonnés. Je posais des questions aux villageois. Comment ils reçoivent les informations sur l'agriculture? Donc, on me répondait tout le temps, c'est la radio d'abord. C'est la radio qui est la priorité chez nous. Avec les piles, ça va. Mais quand je posais la question, les téléphones, la télé, on me disait, ah, on n'a pas de sous pour acheter tout ça là. Donc, Tout à l'heure, j'écrivais, je l'ai écrit, j'ai dit, la radio, c'est l'information. L'information qui vient de la radio est la plus sûre. C'était la plus sûre. Ça dépend de l'animateur ou bien du journaliste qui est devant son micro, qui informe. Sinon, c'était la plus sûre. À l'époque, on disait, ah, il y a mes radios là. C'est la radio qui a dit ça. Donc, tout le monde croyait. Tout le monde croyait. Parce que Niamé Radio, là, j'ai entendu à la radio qu'il y a eu ceci. Ça veut dire c'est vrai, c'est clair, c'est sûr.
D'accord. Mamadou Bokoum, vous êtes le président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Aujourd'hui, c'est la journée de la radio. Que représente pour vous cette journée?
Merci beaucoup. Merci aux auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs de Tamani. Et des radios partenaires et télévisions partenaires. Vous savez, pour moi, cette journée, c'est comme un hommage mérité rendu à la radio. Déjà, la radio a 100 ans. Commémorer une journée au nom de la radio pour la 13e fois consécutive, je crois que c'est un honneur pour nous en tant qu'homme de radio. C'est une façon de rappeler un peu le passé glorieux de la radio. Et aujourd'hui, la radio est à quel niveau? Quels sont les défis auxquels elle est confrontée? Quelles sont vraiment les préoccupations de ces radios pour que ces radios puissent maintenir le cap, c'est-à-dire le cap d'informer, sensibiliser et de former les citoyens du pays? Et dans l'avenir, quels sont les défis auxquels on est confronté et comment faire pour relever ces défis? Donc, je crois qu'après 100 ans, il est temps vraiment de s'arrêter, faire vraiment un retour rétrospectif, voir un peu qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut pour que ça aille et dans l'avenir, qu'est-ce qu'il faut alors pour que la radio maintienne sa place. Donc cette journée, elle est importante pour nous à plus d'un titre parce qu'il s'agit là de magnifier l'outil radio lui-même qui a accompagné et qui continue d'accompagner d'ailleurs nos différentes communautés jusqu'à la base. Donc c'est une journée vraiment à travers laquelle on rend hommage les pionniers et les pionnières de cet outil vraiment important et qui permet vraiment le véritable développement d'un pays.
D'accord. Vous venez d'écouter Fatoumata Koulibaly qui expliquait son ambition pour la radio. Est-ce que c'est la même motivation chez vous ou vous avez d'autres motivations qui vous ont amené à la radio?
Vous savez, la radio, c'est la crédibilité. Elle a évoqué un point, c'est-à-dire aller à la source. Ça y va du principe même de ce métier. Aller à l'information, recouper l'info, vérifier et mettre à la disposition des consommateurs. Donc c'est important parce que ça reste ça reste la même posture. C'est vrai, il y a des brebis galeuses dans toute profession, dans toute activité, mais toujours est-il que pour avoir de la bonne information, il faut aller à la source. Donc cette motivation d'aller à la source, elle reste et elle demeure, elle doit demeurer. Ensuite, avec l'évolution des temps, les choses évoluent. Le travail a un peu évolué aujourd'hui. Il y a eu des nouveaux acteurs, il y a eu des nouveaux outils, il y a eu beaucoup de choses. Donc, il faut être en phase avec le temps. Donc, je crois que, c'est-à-dire cette même motivation d'informer vrai la population, elle doit rester la même. Et l'engagement et la responsabilité sociale des uns et des autres doit être de mise pour que la radio reste toujours sous titre qui donne la véritable information, sinon l'information vraie à laquelle les citoyens ont confiance jusqu'à preuve du contraire. Et donc cette motivation doit rester et donc je crois que c'est le même élan. Nous sommes dans la même lancée et pour continuer vraiment à relever, c'est-à-dire à amener là où les précurseurs de la radio ont laissé ce travail, nous on continue avec la nouvelle génération et avec de nouveaux outils et avec lesquels on est obligé de travailler aujourd'hui. Donc c'est un défi qu'ils nous ont légué et nous aussi on va continuer à amener vraiment ce défi à bon port pour que cette crédibilité accordée à la radio reste la même.
Elle avait dit qu'à l'époque il y avait pratiquement pas de désinformation. Vous avez parlé tout à l'heure de brebis galeuses. Est-ce à dire qu'il y a des désinformations au sein des radios du Mali?
Vous savez, avec le pluralisme radiophonique, les radios ont vu le jour partout à travers le pays et les gens avaient soif de parler. Donc les gens sont partis à la radio par conviction parce qu'on veut aller à la radio sans aucune formation. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire avec l'évolution du temps, on s'est rendu compte que vraiment ce travail a des principes. Donc ce principe c'est quoi? C'est de respecter le code, les textes qui nous régissent. Donc rares sont ceux-là hein, qui ont l'outil, c'est-à-dire qui ont les compétences nécessaires pour faire de façon professionnelle ce travail. Donc les gens sont là-dedans, d'accord, mais si on est dans quelque chose, il faut apprendre, il faut chercher à comprendre comment fonctionne cette chose. Donc c'est ça qui manque un peu à certains. À d'autres, pour d'autres, c'est fait exprès parce que en s'éloignant vraiment de tous les objectifs de la radio, celle d'apporter la vraie information aux gens, de les sensibiliser, de les éduquer, d'autres en ont fait un moyen de règlement de compte. Or, la radio est loin d'être ça. La radio est là pour gérer les problèmes de la communauté, pour trouver des solutions aux problèmes auxquels la communauté est confrontée. Donc, comme on l'a dit, nous sommes un trait d'union entre la communauté entre gouvernants et gouvernés, entre la communauté elle-même. Et donc, nous devrons jouer ce rôle de façon professionnelle en respectant les textes qui régissent ce métier-là.
D'accord. Ousmane Abdoulaye, vous êtes à Gao, une zone loin de la grande métropole du Mali. La radio est-elle une source d'information pour les régions en insécurité?
Merci d'abord. C'est vraiment une très grande fierté de participer à ce débat-là. Et en compagnie de mes confrères et aussi de ceux qui sont mon président, qui est beaucoup. C'est aussi vraiment l'occasion pour moi de remercier tous les auditeurs de Tamani. La radio est une véritable source d'information pour toutes les communautés des régions du Nord. Parce que jusqu'à présent, la radio et garde la crédibilité de l'information. Parce que aujourd'hui, les citoyens sont tous convaincus que la bonne information doit leur provenir de la radio. Parce que c'est la radio où il y a le professionnalisme. C'est la radio où celui qui donne l'information doit être en capacité, ça veut dire de donner des informations fiables, vérifiables, et des informations qui sont censées être vraiment vraies. Donc ça, nous sommes achevés avec ça. Et cause pour laquelle, quand vous prenez les communautés, aujourd'hui, les 80% attendent la radio pour s'informer, pour savoir ce qui se passe dans le monde. Même autour d'elle. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que l'information, aujourd'hui, est plus capitale que beaucoup de choses ici dans les régions du Nord. Parce que grâce à la sécurité, ça veut dire aujourd'hui qu'il donne les gens veulent savoir ce qui se passe autour de la radio et vraiment savoir quelles sont les précautions prises pour que le retour définitif de la radio puisse vraiment être à l'horizon. Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, vraiment, la radio est vraiment la principale source d'information.
Vous avez dit que la radio était la principale source d'information pour les régions du Nord, les régions en insécurité surtout. Est-ce ça c'est votre avis ou c'est l'avis des populations qui estiment que la radio est utile pour cette localité?
Oui, je vous dis que ça c'est l'avis des communautés parce que nous sommes plus proches des communautés. Nous sommes aussi avec les communautés, nous savons vraiment l'opinion des uns des autres. Et nous avons aussi l'habitude de faire des micro-territoires. Nous avons aussi des responsables qui nous approchent pour nous dire vraiment ce qu'ils pensent vraiment de l'information de la radio. Donc, cause pour laquelle j'ai tout le temps pour vous dire que jusqu'à présent, aujourd'hui, la seule source crédible aujourd'hui l'information pour les communautés du Nord, c'est la radio. Parce que sans la radio, on n'a pas le droit de donner vraiment de fausses informations. la radio n'a pas le droit de donner des rumeurs, de fake news. Ça veut dire que, comme vous l'avez dit, j'ai écouté ça tout de suite dans les propos des uns des autres. Vraiment, la radio, celui qui donne l'information, doit être vraiment un prochain de l'information qui sait faire la différence entre les fake news et la réalité vraiment de l'information. Donc, c'est la principale source d'information.
Les régions du Nord, on sait que c'est des régions où proviennent certainement beaucoup d'informations. Comment faites-vous pour lutter contre la désinformation dans votre localité?
Vous savez, la désinformation aujourd'hui, nous sommes à une époque où la plupart des gens donnent des informations. Il y a aussi beaucoup d'outils qui permettent de donner des informations aux gens. Quand vous partez, vous regardez les médias sociaux. Bien sûr, les médias sociaux, il y a des journalistes, des gens qui sont des journalistes qui donnent des informations qui n'ont aucune base, qui ne savent pas faire la différence entre l'information et les fake news. Donc, la radio, nous, nous avons des outils qui traitent, ça veut dire les fake news, des outils qui luttent contre les fake news, qui nous permettent de savoir si cette information est vraie, qui nous permettent de vérifier l'information, quelle est vraiment sa prévalence. Ça, c'est aussi vraiment important pour nous. Nous avons aussi des contacts qui nous permettent vraiment d'appeler pour savoir l'information, sa crédibilité. Donc, tout cela, c'est une chance pour nous de donner la bonne information correcte.
Est-ce qu'il vous arrive souvent à donner des informations qui, après, vont être relevées fausses?
Ça arrive parfois parce que vous savez, la désinformation dont vous parlez tout de suite, ça peut arriver de tous les côtés. Même de bouche à l'oreille, même sur le coup de téléphone. Quelqu'un peut tout de suite appeler pour vous dire quelque chose s'est passé dans telle localité et qu'il y a ça, tout de suite. La personne qui vous donne l'information est censée être vraiment un vrai responsable, même si c'est un chef de village. Après vérification, c'est-à-dire une heure ou deux heures après, les gens qui vont amener des contacts vraiment être vraiment levés, d'autres être vraiment, c'est-à-dire relâchés. Donc, c'est pour vous dire que, non pas ça, et quand vous regardez les informations sur cette news, on peut vous montrer vraiment des images de la Centrafrique, qu'on va vous dire que ça s'est passé ailleurs, à Kidal, à Galhok, alors que rien n'est vraiment comme possibilité de réalité. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver, mais aujourd'hui, nous sommes tous vraiment à cheval pour toujours vérifier l'information avant sa diffusion. Parce qu'on sait que l'information peut être vraiment plus fatale que vraiment une arme.
D'accord. Les avis des populations du Mali divergent sur l'utilité de la radio de la lutte contre la désinformation. Suivons ces quelques réactions recueillies au sud et au centre du pays.
La plupart de nos jours, les journalistes aussi ne cherchent pas plus loin ou ne creusent pas la source de ces informations. La plupart des journalistes de nos jours cherchent des informations sur les réseaux sociaux. Alors qu'on le sait tous que la plupart des informations sur les réseaux sont souvent des informations erronées qui ne sont pas fiables. Donc, dans ce sens, la radio peut jouer un rôle de désinformation.
De nos jours, il y a certaines radios qui donnent des informations en réalité qui ne sont pas à la hauteur. J'ai même été témoin de cela. Il y a un fait qui s'est déroulé quelque part dont je vais cacher le nom. Et il y a une radio qui a diffusé ça d'une manière que je n'étais pas du tout content. En réalité, donc, suite à ce genre d'informations, donc, nous invitons aux promoteurs des différentes radios et aux directeurs techniques à l'habitude de lutter contre cela. Non, vraiment, ça peut amener la population à faire certaines choses qui ne sont pas réalisées en ordre.
Bien si la radio donne les informations claires et précises, parce que nous écoutons la radio chaque fois, chaque jour. Quand la radio donne les informations, on suit les informations. Il y a beaucoup d'informations claires que la radio donne. La radio vérifie les informations avant de diviser.
D'accord. Alors, quelle lecture faites-vous, Fatoumata, de ces remarques de ces populations du centre du pays et du sud du pays?
Oui, c'est l'époque, hein, parce que à notre époque, on ne pouvait pas diffuser comme ça l'information sans vérifier, même s'il fallait appeler le commandant de secte de l'autre côté ou bien le chef d'arrondissement pour lui poser la question. Et on nous a dit que le marché a brûlé. est-ce que c'est vrai? Ils vérifient, puis ils nous renvoient l'information, on diffuse. Mais tout ça, je pense que c'est manque de formation. Parce que, comme il a dit, le
manque
président...
Manque de formation de qui?
Et manque de formation des animateurs, des journalistes. Il faut qu'on les forme. Sans formation, ça ne marche pas. Parce qu'ils peuvent récolter des informations comme ça, parce que ma nièce m'appelle pour me dire « Ah, le marché a brûlé à Wélessébougou. » Et moi, je viens m'asseoir, je dis « Ah, ma cousine m'a dit que le marché de Wélessébougou a brûlé. » Sans avoir vérifié. Au cours de la formation, on apprend tout ça. Pendant la formation, il le sait. Le président est là, en face de moi. Il faut que les jeunes soient formés, qu'on les forme, qu'ils soient journalistes, animateurs ou techniciens, qu'ils soient formés. Souvent, on dit que bon, ils travaillent pour des gens, c'est-à-dire ils prennent de l'argent à côté, ils viennent faire la propagande de la personne. Bon, tout ça, c'est manque de formation. Quand la personne est formée, elle ne va pas agir de la sorte. Parce que la radio, tu prononces ces mots, tout le monde entend. Ton grand-père est là, ta grand-mère est là, les enfants sont là, tout le monde. Quand ça s'en va, c'est parti. On ne peut pas mettre la main. Hein? Donc, il faut toujours réfléchir, préparer avant de te mettre devant le micro. Donc, il faut leur dire ça, il faut les former, surtout former. En tout cas, moi, je me base beaucoup sur ça.
À qui incombe, selon vous, cette responsabilité?
Les directeurs des programmes, les rédacteurs en chef des radios, des différentes radios, c'est eux qui doivent chercher à former leurs agents. C'est ça. Sinon, ce n'est pas l'agent lui-même, il ne sait pas. Bon, il y a certains quand même qui vont se faire former auprès des anciens, qui vont suivre les anciens, leur demander comment on fait. Nous, on nous demande souvent des jeunes, mais il y a d'autres qui s'en fichent hein, parce qu'ils aiment parler devant le micro, ils veulent se faire entendre. Hein. D'autres s'en fichent. Sinon, tous ceux qui aiment parler à la radio, diffuser les informations fiables, crédibles, hein, être même crédibles, va chercher à se former. Formation, priorité. En tout cas, chez moi, c'est ça.
D'accord. Beaucoup, ce qui est dit dans ce micro-trottoir, reflète-t-il la réalité d'aujourd'hui?
Bon, je relève deux points. Il y en a ceux qui croient que les radios ne donnent pas de vraies infos. Il y en a celles qui croient que la radio donne des informations claires de toutes les façons. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, on a une boussole, là, en fait, pour faire ce travail-là. Cette boussole, on doit suivre la direction de cette boussole. C'est-à-dire, une information n'est diffusée que lorsqu'elle est recoupée, vérifiée, revérifiée, sinon revérifiée. Deuxièmement, les gens ont tendance à confondre ceux qui évoluent sur d'autres plateformes aux journalistes. Sinon, je ne dirais pas que ça n'existe pas, mais rares sont les journalistes qui prennent une information comme ça sur un réseau social et diffusée. Mais ça ne manque pas. Mais c'est très rare. Il faut faire la part des choses. Parce qu'aujourd'hui, toute personne qui a son smartphone, qui donne une information, ou en tout cas qui est un peu éloquent, il est un peu éloquent, et les gens l'appellent journaliste, lui donnent le qualificatif de journaliste. Il y a ce problème, en fait, qui est là. Mais toujours est-il que, comme je l'ai dit, les principes sont clairs. On ne diffuse jamais une information vérifiée. Il y a un de mes formateurs qui me dit, même si ta mère te dit que c'est elle ta propre maman, il faut te poser la question. Il faut essayer de vérifier.
Mais pour pas dire combien... Quand vous dites qu'on ne diffuse jamais une information vérifiée, qu'est-ce que
non,
vous
voulez dire? Non vérifié, j'ai dit. Voilà. J'ai dit on ne doit jamais diffuser une information qui n'est pas vérifiée. Oui. Ça, c'est le principe qui le dit. C'est l'article premier même du Code d'éthique et de la déontologie. Premier aspect. Deuxième aspect, l'autre qui parle des journalistes, entre guillemets, qui suscitent des problèmes dans la communauté. Il faut que les uns et les autres sachent que le journaliste, l'animateur, travaille pour la communauté. Pourquoi il y a l'éthique? L'éthique est là pour moraliser un peu ce que nous faisons. La déontologie nous enseigne de ne dire que de la vérité. Mais est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? Non. C'est-à-dire, il y a certaines informations Il faut peser le pour et le contre. Est-ce que si je donne cette information, même si elle est vraie, quel peut être l'impact de cette information sur ma communauté? Il y a des infos qui amènent un soulèvement dans ta communauté. Est-ce donner cette information?
Est-ce que c'est toutes les radios opportune?
Non, je parle de façon générale. De façon générale, c'est-à-dire les manquements qui peuvent exister. Je parle de façon générale. Voilà. Sinon, un bon animateur, un bon journaliste doit se poser cette question. L'information que je vais mettre à la disposition de ceux qui me suivent, quel peut être l'impact de cette information de façon positive ou négative? Quand tu fais un peu, tu mets un peu c'est la balance, tu sauras si tu dois le dire ou si tu ne dois pas le dire. Donc, il faut d'abord qu'on sache que le journaliste animateur ne travaille que pour la communauté, pour l'intérêt de la communauté, pour aider la communauté à résoudre ses problèmes, les préoccupations auxquelles cette communauté fait face. Donc, justement,
l'animateur, qu'il le sache auparavant.
Fatoumata a parlé tout à l'heure de manque de formation des agents de la radio qui relève la responsabilité de vous, les responsables des radios.
C'est normal, j'ai commencé par ça, j'ai dit il y a le défi de la formation, les gens sont venus comme ça à la radio. Donc il faut qu'ils se forment, je l'ai dit dès l'entame de mes propos. Et cette formation dépend d'abord...
Mais est-ce qu'on devait donner, vous en tant que responsable de radio, est-ce que vous devez donner le micro à quelqu'un que vous savez réellement qu'il n'a pas été suffisamment armé pour donner certaines informations?
C'est là le manquement en fait. C'est là le manquement. Je l'ai dit, avec l'ouverture radiophonique, les gens sont venus comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut veiller à leur formation. Maintenant, et ceux qui viennent encore, les nouveaux qui doivent venir, c'est là où les responsables de radio doivent aussi être formés. En fait, parce que c'est-à-dire la gestion de la radio demande un apprentissage. Oui. On ne peut pas gérer une radio comme ça sans pour autant avoir les béabas même de la gestion d'une radio. Et tu ne sais même pas comment on propose une grille de programme. À plus forte raison, donner un contenu à cette grille et tu prétends gérer une radio. Et malheureusement, on rencontre ça aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut non seulement d'abord que les responsables des radios soient formés, c'est primordial, mais aussi les acteurs qui animent ces radios-là. Parce que, comme je l'ai dit, ils sont venus comme ça et on ne doit pas, en principe, les laisser le micro aujourd'hui à l'heure où nous sommes. Parce que c'est un outil très fatal qu'on a entre nos mains, qu'on ne sait pas. Donc, il faut savoir comment manier cet outil-là. Très bien manié, tu feras vraiment un bon animateur, un bon journaliste, vraiment quelqu'un qui a contribué au développement de sa communauté. Mal manié, malheureusement, ça a beaucoup de conséquences. Donc, il faut éviter ces conséquences-là. Nous qui sommes responsables des médias et responsables des fêtières, on doit mettre ça dans nos plans d'action, la formation en pole position, pour permettre vraiment d'assainir ce secteur, pour permettre aux uns et aux autres vraiment de travailler de façon professionnelle.
D'accord. Ousmane Abdoulaye, vous êtes à Gao, vous êtes le directeur de la radio. Ce que vous venez d'écouter dans ce micro-trottoir, est-ce c'est-à-dire que la radio est-elle toujours un élément important des médias?
Vous savez, j'ai écouté certains disent qu'il y a des journalistes qui ne se réfèrent qu'aux réseaux sociaux. Vous savez, les réseaux sociaux constituent vraiment une alerte d'information, mais ne constituent pas la crédibilité de l'information. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est tout ce que je vois que vraiment il y a quelque chose qui s'est passé à Kamani. Je dois d'abord m'informer auprès du premier responsable de Kamani. Et vraiment de Mirana Kidou, que je sais qu'il est à Kamani, et qui me donne l'adresse vraiment de cette information. Donc, les réseaux sociaux ne sont pas vraiment une source fiable sur laquelle on peut vraiment se baser pour donner une information. Mais quand vous regardez les réseaux sociaux, c'est une alerte qui vous permet d'aller à la recherche, de la vérification et de la collecte vraiment cette information. On ne peut pas tout suspendre vraiment une information comme ça à chaud sur les réseaux sociaux diffusés. Un journaliste qui fait ça, ou bien un autre qui fait ça, n'est pas prudent. Vous savez, je veux vous dire une chose. C'est-à-dire que si vous regardez aujourd'hui la bête noire, je vais vous dire, la bête noire du journaliste aujourd'hui des animateurs, ça c'est le fait que ça doit être l'époque. Je disais, la bête noire du journaliste et des animateurs à cette époque à laquelle ils sont en train de parler et de travailler, c'est le fait que ça veut dire que ça peut avoir plusieurs natures. Ça peut avoir vraiment plusieurs couleurs. Si je dis ça, c'est comment? Quand vous regardez les fake news, même la voix de la personne, vous pouvez l'écouter. Ça peut être, il y a des machines, il y a des outils, il y a des logiciels qui permettent vraiment de transformer la voix de quelqu'un comme vraiment la voix que vous voulez vraiment écouter. Ça peut être vraiment sur les tweets, ça peut être vraiment sur les écrits, ça peut être vraiment sur les images, ça peut être dans les vidéos. Donc ça veut dire que le journaliste doit être vraiment mûrement armé, mûrement formé, pour que vraiment des tweets puissent être vraiment relevés. Ça, c'est vraiment important. Vous savez dire ces choses. Les fake news, c'est pas seulement les radios privées, pas seulement les radios privées. Même la radio tactique ne peut pas s'entraîner facilement. Je dis bien l'Orchem, c'est notre radio de référence. Rappelez-vous les jours où l'avion algérien était vraiment tombé au Mali. Quand ça a été dit, c'est vraiment les voix les plus officielles que cet appareil était tombé vraiment à Gadok. À la dernière, c'était vraiment à Gouchi. Vous comprenez? C'est difficile. Je dis que vraiment, s'il faut vraiment intensifier vraiment la formation des animateurs et des journalistes, c'est vraiment ces fake news. Parce que ces fake news aujourd'hui, c'est vraiment un véritable danger pour les médias et pour les communautés. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un média, c'est parce qu'il y a une communauté. Donc aujourd'hui, il faut regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça, c'est extrêmement grave. Donc je suis entièrement d'accord que nous devons vraiment aller à la formation. Nous devons vraiment former vraiment nos personnels pour que vraiment ces fake news là, nous pouvons ensemble, ça veut dire vraiment combattre vraiment ces genres vraiment d'informations.
D'accord. Alors, comment utiliser, selon vous, la radio comme média de communication de masse?
La première stratégie, c'est d'être professionnel. Mon frère, il faut être professionnel. Professionnel n'est pas n'importe qui. C'est la personne d'abord qui bute d'abord de l'information. Quelle soit l'information, quelle soit les gens d'information, quelle soit la personne qui donne l'information, il faut d'abord buter. Quand un journaliste dit de l'information, ça l'amène vraiment à aller à la vérification. Comme ça, il va aller vérifier auprès vraiment des grandes sources, vérifier vraiment auprès vraiment des grandes personnalités, des autres autorités, des personnes qui sont habilitées à donner l'information vraiment dans sa splendeur. C'est ce qu'il fallait faire. Si on ne vérifie pas, si on ne prend pas vraiment des logiciels de vérification, on va toujours donner vraiment des fake news.
On sait que la région de Gao était confrontée à une crise multidimensionnelle depuis 2012 jusqu'à nos jours. Quels sont les moyens que vous utilisez pour lutter contre la désinformation dans cette localité?
Le premier moyen, c'est la vérification. Vous savez, la vérification, c'est de quoi? Il faut aller, quand vous entendez une information, ou bien quand vous voyez une information sur les réseaux, ou bien même à la télé, il faut demander les autorités, ceux qui sont, je dis, proches de l'information, ceux qui sont habilités à donner l'information entièrement, ceux qui sont vraiment des gens qui sont fiables, qui peuvent dire vraiment ça s'est passé, à quel jour j'étais là-bas, je suis le responsable de telle structure. Il faut aller au niveau des autorités pour qu'ils donnent la bonne information. Et parce qu'un journaliste ne peut pas rester vraiment sur sa table ou bien dans son studio et vraiment parler de quelque chose vraiment qu'il n'a pas vérifié. Ça, c'est catastrophique. Donc, nous, ce que nous sommes en train de faire, c'est la vérification d'abord. Deuxièmement, nous avons des logiciels de vérification vraiment d'informations qui nous proviennent vraiment de soit des réseaux sociaux, soit vraiment de Google, soit vraiment de l'Internet, que soient vraiment les moyens. Nous avons vraiment des logiciels pour pouvoir vraiment de vérifier l'information. Donc, c'est pour vous dire que nous, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes vraiment à cheval chaque jour à travers vraiment nos conférences de rédaction pour que chaque information que nous avons soit vérifiée, qu'on soit sûr que ce qu'on va donner ne sera jamais de notre donné. Pour la crédibilité de notre radio et pour aussi sauver vraiment nos communautés qui nous écoutent.
Fatmata Koulibaly, quels sont selon vous les atouts de la radio en tant que média?
Bon, les atouts, c'est éduquer. La radio permet d'éduquer la population. Moi, en tant qu'ancienne, je l'ai fait plusieurs fois dans mes émissions, à travers mes émissions. Et ça permet de sensibiliser également la population, donner des informations, les distraire. On est là, je dis on, nous, de la radio, nous sommes là pour ça, pour aider la population à se développer. Donc, nous partons à la source, par exemple, chez les paysans, nous partons là-bas. Si c'est des paysans qui cultivent du haricot, par exemple, des guindos, des migas, hein, nous partons là-bas et nous voyons ce qui se passe et comment ils le font et comment se font leurs récoltes. Et si c'est bon, ces fruits sont bien, on vient, on essaie de parler avec la personne, d'interviewer la personne, parce que moi, je suis plus radio rurale, parce que j'ai fait une spécialisation en radio rurale. C'est pourquoi je vous parle comme ça, du milieu rural. Donc, on vient, on fait des interviews des paysans là, sur place, avec les témoignages, on ramène ça et on fait diffuser. Comme ça, les autres vont entendre, ça va les inciter à faire comme ceux qui viennent d'entendre. Ça, la radio permet de développer. Si c'est le problème de santé également, le palu est là, il y a de l'eau, stagnant par-ci, par-là, les enfants tombent malades, on va là-bas, la même chose. Hein. Si c'est pour distraire, là, il y a la distraction pendant les fêtes de fin d'année dans les villages, les fêtes des villages, nous partons également prendre hein, de la musique, des chants, hein, et puis on diffuse. Donc, la radio est là pour éduquer. Il le sait, c'est la déontologie de la radio pour éduquer, former, distraire. Hein.
Quel est l'impact de la radio aujourd'hui sur la société?
Bon, aujourd'hui, nous, dans toutes les localités presque, il y a des radios. Dans toutes les localités, comme je l'avais dit tout à l'heure, dans le milieu Minianka là-bas, les villages n'ont pas de radio. Les villageois, les chefs de village, les maires souhaitent avoir des radios locales. Mais ils écoutent, le cas de Koutiala que je connais, ils écoutent les radios Yesu de Koutiala et puis Radio Mali, Radio Djamana de Koutiala. Mais ils aimeraient avoir leur radio locale à eux, parler leur langue, discuter de leurs problèmes. S'il y a problème de santé, s'il y a problème d'éducation, hein, discuter de ça. Moi, je pense que ça, c'est mieux. Et ici à Bamako, bon, il y a tellement de radios, il y a beaucoup de radios. Bon, ça distrait, bon, ça éduque, mais il faut revoir encore. Il faut revoir encore. Et je ne vais pas m'hasarder à trop parler de cela, mais tout le monde écoute les radios. Hein. Comme je l'avais dit, il y a des radios de propagande des personnes, de certaines personnalités. Il faut qu'on évite ça. Si les animateurs sont formés,
Comment réguler les radios qui s'adonnent à des fausses informations, selon vous?
Bon, comme les responsables sont là, bon, c'est à eux d'en parler. En tout cas, moi, en tant qu'éducatrice, formatrice, parce que je forme les jeunes, donc je leur demande tout simplement éviter de cela pendant votre animation. Hein. Il faut animer, il faut dire ce qui est vrai, il ne faut pas mentir, il ne faut pas faire la propagande de telle ou telle personne parce qu'il vous a donné des sous. Hein, parce que vous êtes là, derrière le micro, pour l'ensemble de la population. Tout le monde vous écoute. Donc, faites attention. C'est ce que je dis aux jeunes. Mais comme les responsables, monsieur est devant moi, il peut en parler.
Boubacar Bokoum, Mamadou Bokoum, qu'est-ce que la radio a pu apporter aujourd'hui en termes de rendement et de développement dans les zones où elle est plantée?
La radio est une identité de ces différentes zones. On peut dire que la radio est fondue même aujourd'hui dans les communautés. Comme je l'ai dit, une radio de proximité, comme son nom l'indique, c'est cette radio qui s'occupe des besoins réels de la communauté dans laquelle elle est implantée. En ce sens que tout ce qui s'appelle préoccupation de cette communauté, la doyenne en a évoqué notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de agro-pastoral, dans le domaine commercial. Donc, en tout cas, toutes les activités concernant ces communautés, c'est la radio qui doit aider la communauté à mieux faire, à mieux pratiquer sa communauté, à les enseigner de la bonne manière avec les experts, les spécialistes de la question pour leur permettre vraiment de comprendre sur quel pied il faut danser par rapport à tel ou tel domaine. Encore une fois, la radio est indispensable dans une communauté. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la radio qui parle aux communautés à leur langue. C'est important. C'est surtout cela qui fait la beauté de la radio. À travers tous les pays, partout où une radio est implantée, vous trouverez que cette radio s'adresse à la population dans la langue qu'elle comprend.
D'accord. Donc, en 30 secondes, avant d'entamer la deuxième partie de cette émission, comment, je viens de poser tout à l'heure la question à Fatoumata, comment réguler les radios qui s'adonnent à des fausses informations en 30 secondes?
D'abord, il y a l'autorégulation, la régulation des pairs. Moi, je suis pour ça, c'est ce qui est important d'ailleurs, entre nous, qu'on se dise la vérité, voilà, X, tu as fauté, c'est comme ça, c'est comme ça. Ensuite, il y a l'instance de régulation qui existe Avant, au Mali, il y avait l'ODEP, qui est l'Observatoire pour la déontologie et l'éthique, etc., qui ne fonctionne plus. Mais au sein des fêtières, il y a quand même des cellules de régulation là-bas. Ça, c'est la régulation des pères, où on appelle à l'ordre souvent ceux qui s'égarent. Maintenant, il y a la régulation aussi, et c'est-à-dire il y a l'instance de régulation du pays que l'État a mis en place, qui est la Haute Autorité de la Communication, qui doit veiller sur toutes ces pratiques dont vient de dénoncer la doyenne, c'est-à-dire la propagande. C'est-à-dire le contenu de ce qui se passe. D'accord. Donc, c'est à la Haute Autorité de la Communication de prendre ses responsabilités.
D'accord. Il nous reste 5 minutes à partager ensemble. Le professionnalisme des hommes des radios dans la résolution des crises, le retour de la paix, le vivre ensemble a été salué par certaines populations, suivant ce micro-trottoir réalisé par nos correspondants locaux.
Le rôle de la radio dans la résolution des crises multidimensionnelles au Mali. Son premier rôle est de consolider la paix en véhiculant la bonne information, en véhiculant aussi les messages de non-violence, en véhiculant aussi les messages qui rentrent dans le cadre du vivre ensemble. Nous sommes dans un pays enclavé dont la plupart des populations vivent dans des contrées un peu lointaines, dont leur source d'information ne se limite qu'à travers ce qu'ils écoutent et sur la radio. Donc la radio joue un rôle vraiment primordial dans la consolidation de la paix ici au Mali.
Bon, dans la résolution des conflits multidimensionnels au Mali, les radios peuvent jouer un très grand rôle, puisqu'à travers les différentes thématiques abordées sur la consolidation des acquis, sur la consolidation de la paix, les débats, les interviews, la recherche de solutions, et les différentes émissions qui font appel à d'autres personnes, des ressources et surtout qui demandent l'avis de tout un chacun, les gens peuvent proposer des solutions. Donc la quête de ces solutions peut être vraiment source de motivation, source d'inspiration pour ceux qui œuvrent dans la consolidation de la paix au Mali.
Ousmane Abdoulaye, vous êtes au Nord. Quel a été le rôle des radios de la résolution de conflits au Nord?
Les radios ont joué vraiment un rôle prépondérant. Les radios vraiment, ont joué un rôle extrêmement important. Depuis les événements de 2012 à nos jours, les radios sont toujours à cheval vraiment pour pouvoir vraiment aider les communautés, aider les responsables vraiment administratifs, politiques et militaires, aider les chefs religieux, aider vraiment les chefs communautaires pour que vraiment le retour de la paix et la cohésion sociale puisse être une réalité. Vous savez, ici, il y a des radios qui ont joué un rôle extrêmement important dans l'étude de la paix, ce sont les radios du Nord. Ces radios du Nord-là ont joué beaucoup, beaucoup de rôles. Même au temps où on était sous occupation, nous avons pu vraiment travailler de telle sorte que nos populations puissent rester, que nos populations puissent au moins être à l'école. Parce qu'en 2012, il y a des zones dans lesquelles il y a eu école. Et il y a des zones dans lesquelles les enfants ont pu vraiment avoir la vaccination. Il y a des zones dans lesquelles ils n'ont plus au moins fait la distribution vraiment des aides humanitaires. Les radios ont joué beaucoup, même les hôpitaux, même les centres de santé, ont marché grâce à Dieu, ensuite venant par le travail impeccable des radios. Et nous savons aussi que sans ces communautés-là, il n'y a pas de radio. Parce que pour parler de radio, il faut parler vraiment des communautés. Donc la force de la radio, ce sont vraiment ces communautés qui sont autour d'elles. Donc, d'accord. Je peux vous dire carrément que même récemment, la région Dakar a organisé un très grand forum avec toutes les communautés de Gao pour parler de paix et de vivre ensemble. Ça, c'est extrêmement important aussi.
D'accord. Merci Ousmane. Restez en ligne. La radio était considérée comme un outil pour consolider l'unité nationale et joue un rôle d'instruction civique. Maintient-elle toujours ce cap, selon vous, Fatoumata?
Bien sûr. Même j'écoute plusieurs radios ici à Bamako. J'entends tout le temps des émissions de consolidation de la paix, mais à travers les émissions des animateurs. Et donc ça a beaucoup joué ici à Bamako, partout. Mais moi, j'aurais aimé que ça soit aussi dans nos langues. Dans nos langues, et ça serait mieux. Un peul, un dogon. Et autres.
En 15 secondes, que peuvent faire les radios pour prévenir l'escalade de la violence?
Les radios sont dans cette posture depuis le déclenchement de la crise. Hein, et, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, aucune radio n'a été inquiétée par rapport à son travail qu'il a fait dans les zones de crise. C'est pour vous dire qu'ils sont déjà, elles sont dans la posture de rassembleurs des communautés afin de vraiment promouvoir les dialogues. intermaliens et en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Comme je l'ai dit, cette commission de dialogue intermalien qui vient d'être créée ne fait qu'emboîter les pas aux radios.
Merci. On va devoir remettre l'antenne à nos radios partenaires. Merci à nos invités. Et le thème qui était en temps de crise, la radio capable du meilleur comme du pire. Nous étions avec Fatoumata Koulibaly de l'Office de radio-télévision du Mali, ORTM, Mamadou Bokoum, président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, ORTEL, et Ousmane Abdoulaye de la radio Nata de Gao, il est le directeur. À la présentation, c'était Imrana Kilo Maïga. Ce débat a été coordonné par Sekou Gadjigo. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.